VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde aujourd'hui du mercredi 20 janvier 2016. En direct de Washington, Tatiana Mosso et Anne Albertson, voici les titres de cette édition.
Visite au Burundi pour les représentants des États-Unis et de la France à l'ONU. Samantha Power et François Delattre tenteront de relancer le dialogue entre les parties rivales burundaises.
4 jours après l'attaque, de nombreuses questions sans réponse au Burkina Faso. Le nombre d'assaillants, de victimes, le rôle des forces spéciales étrangères, le point dans cette édition.
Au Mali, 3 gendarmes tués dans la nuit de mardi et mercredi près de Mopti par des djihadistes présumés. De son côté, le comité de suivi de l'accord pour la paix au Mali a déploré la lenteur de la mise en œuvre des mesures.
Aux États-Unis, contamination de l'eau courante dans la ville de Flint. La garde nationale a envoyé des renforts pour distribuer des bouteilles d'eau potable. Michel Joseph nous en dira plus.
Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports, mais d'abord le journal. Crise au Burundi, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU quitte New York mercredi soir à destination de Bujumbura. Les Nations Unies ont dénoncé le 15 janvier l'existence de massacres ethniques, de charniers et de viols collectifs commis par les forces de sécurité au Burundi. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Conduite par la représentante des États-Unis à l'ONU, Samantha Power, et l'ambassadeur de France à l'ONU, François Delattre, la délégation tentera de relancer le dialogue entre les parties rivales burundaises. Pour le vice-secrétaire général de l'ONU, Yann Eliasson, cette visite du Conseil de sécurité à Bujumbura est de la plus grande importance. L'émissaire spécial onusien pour le Burundi, Jamal Ben Omar, est en contact avec les membres du Conseil et l'ONU maintient un contact étroit avec l'Union africaine et la communauté est-africaine. Compte tenu de la situation, a-t-il expliqué. Nous notons des signes très préoccupants sur le terrain et une certaine nervosité au Rwanda est aussi source de préoccupation. Ce qui ne doit pas arriver au Burundi, c'est que ce conflit passe d'une phase politique à une phase ethnique, a déclaré Yann Eliasson, avertissant que l'élément ethnique serait beaucoup plus difficile à contrôler.
3 gendarmes maliens ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi près de Mopti, dans le centre du pays, par des djihadistes présumés. Confirmant l'information, un responsable de la police locale a affirmé que les 3 gendarmes étaient tombés dans une embuscade. Ils sont allés dans une zone qui était très difficile d'accès, a-t-il indiqué. Les terroristes ont tendu une embuscade dans une zone très isolée, a-t-il précisé.
Et toujours au Mali, sur le plan politique, à l'issue d'une réunion à Alger, le comité de suivi de l'accord pour la paix au Mali a déploré hier la lenteur de la mise en œuvre. Arzouma Compaoré.
Les 3 parties signataires de l'accord dit d'Alger étaient représentées à cette réunion. Le gouvernement malien, la coordination des mouvements de l'Azawad, la plateforme et tous les membres de la médiation, dont Mahama Saleh Anadif, nouveau chef de la MINUSMA, devaient faire le point 6 mois après la signature de l'accord de paix malien. Un comité de suivi dirigé par l'Algérie a relevé les lenteurs dans la mise en œuvre d'engagements clés, mais s'est félicité de la cessation des hostilités. Il a rappelé la responsabilité de Bamako et le rôle crucial des autres parties signataires. Le comité a fait état de sa préoccupation face à la persistance des attaques terroristes et criminelles visant les forces maliennes, les forces internationales et la population civile.
Où en est l'enquête sur les attaques au Burkina Faso? Jusqu'à présent, les autorités burkinabées ne faisaient état que de 3 assaillants, tous tués. De nombreux témoins évoquent 4, 5 ou 6 assaillants, dont 1 ou 2 femmes. Selon une autre source, les djihadistes ont aussi changé de tenue pendant l'attaque, portant parfois des vestes ou des turbans. Une source proche du dossier reste quant à elle convaincue que le nombre de 3 paraît faible. Concernant d'éventuelles complicités probables de l'avis de plusieurs sources, une source sécuritaire a parlé d'une possible cellule dormante à Ouagadougou.
Ouagadougou toujours, le bilan burkinabé était mardi de 30 morts. Par ailleurs, les bilans des nationalités ont changé à plusieurs reprises selon les différentes autorités burkinabées ayant communiqué sur le sujet. Mardi, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, a indiqué qu'il restait 5 corps non identifiés, ce qui ferait au total un bilan supérieur à 30.
Et 4 jours après l'attaque, de nombreuses questions restent sans réponse. Le nombre d'assaillants donc reste un mystère. Selon le déroulement reconstitué par plusieurs témoins et des sources proches de l'enquête, les djihadistes ont attaqué en premier le Cappuccino. Ils ont ensuite attaqué l'hôtel Splendide, où on les croyait réfugiés. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Alors qu'on a cru que la cible principale était l'hôtel Splendid et qu'il a concentré l'essentiel de l'attention médiatique et même des forces de sécurité pendant l'attaque, le bilan montre que c'est le café-restaurant Cappuccino qui a été le théâtre le plus sanglant. 26 des 30 personnes tuées l'ont été au Cappuccino, selon une source proche de l'enquête qui précise que 17 étaient à l'intérieur de l'établissement et 9 sur sa terrasse. Les forces de sécurité n'ont finalement trouvé aucun assaillant dans l'hôtel lors de l'assaut final qui s'est déroulé en face au Taxi Bruce et à l'hôtel Yibi. Il ne s'agissait donc pas de viser un hôtel, mais plutôt la zone fréquentée par la communauté occidentale. Les forces spéciales françaises stationnées de manière permanente à Cambon-Saint ont participé activement à l'assaut. De sources diplomatiques françaises, elles sont intervenues à la demande du Burkina et ce sont elles qui ont mené l'essentiel de l'assaut et tué les 3 djihadistes. Mais de sources militaires burkinabées, ce sont bien les forces de sécurité burkinabées qui ont tué les 3 djihadistes. Quant aux Américains, ils n'ont de sources diplomatiques apporté qu'un soutien logistique aux opérations avec l'appui d'un drone. Cette version est infirmé par des rescapés du Splendid qui affirment avoir été sauvés par des Français, des Burkinabés mais aussi des Américains. Selon une source proche du dossier, une dizaine de soldats américains sont intervenus contre plus de 70 hommes des forces françaises.
Et au Soudan, le Soudan ne permettra pas au groupe État islamique de faire de lui un point de passage vers la Libye, a assuré le chef des services secrets soudanais. Des informations selon lesquelles de jeunes Soudanais se sont rendus en Libye pour se battre aux côtés de groupes radicaux islamistes et certains y ont été tués ont circulé dans les médias de Khartoum. L'ONU s'est inquiétée mardi du sort de milliers de civils menacés par les nouveaux combats opposant les rebelles aux forces gouvernementales au Darfour, un bastion des groupes en lutte contre le régime du président Omar el-Béchir.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces kurdes ont détruit des milliers de maisons dans le nord de l'Irak dans une tentative apparente de déplacer les populations arabes, affirme mercredi Amnesty International dans un communiqué. La destruction et le vol de biens sont devenus une pratique courante dans le cadre de la guerre contre le groupe État islamique, entraînant la colère des habitants. Les forces Peshmerga du gouvernement régional du Kurdistan et des milices kurdes ont détruit des milliers de maisons au bulldozer en les faisant exploser ou en les brûlant pour se venger du soutien supposé de leurs propriétaires au groupe État islamique, soutient Amnesty.
Le groupe État islamique toujours a confirmé la mort du Britannique Jihadi John, tué en novembre 2015 par une frappe aérienne sur son fief de Raqqa, dans l'est de la Syrie. L'armée américaine avait affirmé en novembre qu'elle l'avait probablement tué dans une frappe Jihadi John, de son vrai nom Mohamed Mwazi. Que l'on voit dans plusieurs vidéos de décapitation d'otages occidentaux et qui était devenu emblématique de la cruauté de l'organisation djihadiste.
En Haïti, plusieurs milliers de personnes ont participé mardi à une manifestation de l'opposition à Port-au-Prince qui s'est achevée par le blocage avec des barricades enflammées de rues du centre-ville et ce, à 5 jours du second tour du scrutin présidentiel. La police haïtienne a dispersé la majorité du cortège en lançant des grenades lacrymogènes alors que des individus tentaient d'enflammer des pneus sur un des axes majeurs de la capitale. Depuis 2 mois, l'opposition dénonce un coup d'État électoral fomenté par le président Michel Martelly, qui ne peut pas prétendre à un deuxième mandat consécutif en vertu de la Constitution de Haïti.
Le braconnage de la faune africaine au centre des préoccupations de Washington. La ministre américaine des Affaires intérieures et des Ressources naturelles, Sally Jewell, entame jeudi une tournée africaine pour dénoncer le trafic d'espèces protégées. Les précisions d'Eddie Sango.
Avant cette visite qui la mènera au Gabon, au Kenya ainsi qu'en Afrique du Sud, Mme Jewell a expliqué à la presse la décision des autorités américaines d'interdire l'importation des trophées des lions et d'éléphants, particulièrement du Zimbabwe. La direction des eaux et forêts des États-Unis ne pense pas que des mesures adéquates soient en place dans ces pays pour les efforts de conservation. C'est la position que nous avons adoptée. Contrairement au Zimbabwe, la Namibie dispose de telles mesures, a précisé Mme Jewell, ajoutant qu'il est important pour les pays de travailler avec les États-Unis et les communautés locales à cette fin. Les gouvernements zimbabwéens et les opérateurs touristiques de son pays disent pour leur part que l'interdiction de l'importation des trophées affecte négativement les revenus nationaux du Zimbabwe.
Et on retrouve la Minute Éco avec John Lyndon.
La ville de Conakry a accueilli lundi le Forum d'affaires Maroc-Guinée, conjointement organisé par l'Agence de promotion des investissements privés
et la Confédération générale des entreprises du Maroc. Ce rendez-vous d'affaires, parrainé par le président Alpha Condé, intervient dans le prolongement de la visite en mars 2014 du roi Mohamed VI à Conakry et du Forum économique Maroc-Guinée organisé à Casablanca en septembre 2014, avec à la clé la signature d'une vingtaine de conventions. En Côte d'Ivoire, les travaux d'aménagement de la baie de Cocody, appelée à devenir la vitrine d'Abidjan, ont démarré lundi avec une première phase d'un coût de 11 milliards de francs CFA. Évalué à un coût global de 100 milliards de francs CFA, le projet a été dévoilé pour la première fois le 3 juin dernier lors de la visite du roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire, en présence du président ivoirien Alassane Ouattara. L'économiste en chef du Fonds monétaire international a jugé mardi extrême la chute des marchés depuis le début de l'année au vu des perspectives de l'économie mondiale. Les places boursières mondiales ont dévisé depuis le début de l'année, inquiète du ralentissement de la croissance chinoise, de la chute des cours des matières premières, notamment du pétrole, et du resserrement monétaire en cours aux États-Unis.
Et maintenant, notre page sport avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Tatiana.
On commence par le CHAN.
Oui, les premiers matchs du groupe D ont eu lieu hier mardi. Le Zimbabwe a été battu par la Zambie 1-0 et le Mali a fait jeu égal face à l'Ouganda, 2-2. Le Rwanda va tenter ce mercredi de confirmer face au Gabon, quant à la Côte d'Ivoire, elle en découdra avec le Maroc.
Football, Copa América, on connaîtra les groupes le 21 février.
Oui, le tirage au sort des quatre groupes de la Copa América du centenaire aura lieu à New York avec comme tête de série les États-Unis, l'Argentine, le Brésil et le Mexique, les États-Unis, pays hôtes versés dans le groupe A, donneront le coup d'envoi du tournoi le 3 juin à Santa Clara, c'est en Californie. L'équipe dirigée par l'Allemand Jürgen Klinsmann disputera ses matchs de poule suivants à Chicago le 7 juin et à Philadelphie le 11 juin. Le Brésil, dans le groupe B, débutera son tournoi le 4 juin à Pasadena, toujours en Californie. Le Mexique, dans le groupe C, le 5 juin à Glendale, en Arizona. Et l'Argentine, dans le groupe 2, le 6 juin à Santa Clara. Le Chili, vainqueur de la dernière Copa América, organisée à domicile en 2015, n'est pas tête de série. La Copa América du centenaire se déroulera dans 10 stades à travers les États-Unis, dont le MetLife Stadium à East Rutherford dans le New Jersey qui accueillera la finale le 26 juin. La Copa 2016 se déroulera sous une forme inédite avec les 10 équipes habituelles de la CONMEBOL, la Confédération sud-américaine, et 6 formations issues de la CONCACAF, la Confédération d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes, dont les États-Unis, le Mexique, la Jamaïque et le Costa Rica.
En football toujours, ce chiffre record de limogeage en Angleterre.
Oui, 29 entraîneurs des 4 premières divisions anglaises, un chiffre record comme vous dites, ont été limogés au cours de la première moitié de la saison. Selon une statistique de l'Association des entraîneurs de la Ligue anglaise, ce nombre d'entraîneurs limogés entre le 1er juin et le 29 décembre 2015 efface le précédent record qui était de 27 sur la même période en 2014. 6 entraîneurs de Première Ligue figurent dans cette liste, dont José Mourinho de Chelsea.
En athlétisme, un nouveau secrétaire général par intérim de l'I2AF, la Fédération internationale.
Oui, Jean Garcia, dirigeant des fédérations françaises et européennes, a été désigné mardi secrétaire général par intérim de la Fédération internationale d'athlétisme dans l'attente d'une nomination définitive à ce poste attendu mi-2016. Ancien secrétaire général de la Fédération française et actuellement vice-président de la Fédération européenne, Jean Garcia est âgé de 60 ans. Un nouveau secrétaire général devrait être nommé mi-2016, précise le communiqué de l'IAAF. Et puis Tatiana, pour terminer, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Milwaukee bat Miami 91-79, Minnesota s'incline 99-114 face à la Nouvelle-Orléans, Oklahoma gagne 110-104 face à Denver, Indianapolis l'emporte 97-94 face à Phoenix.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours dans Le Monde aujourd'hui, nous passons au dossier du jour. Les islamistes de Boko Haram continuent d'attaquer les écoles, les marchés, les églises et les mosquées dans l'extrême nord du pays. Face à cette situation, musulmans et chrétiens camerounais ont décidé de protéger mutuellement leur lieu de culte. Voici un reportage de notre correspondant Moki Edwin Kidzeka, présenté par John Lyndon.
C'est l'heure de la prière à la mosquée centrale de Mosoko, localité camerounaise près de la frontière nigériane. Les fidèles sont réunis à l'intérieur tandis qu'un groupe local d'autodéfense monte la garde, interdisant l'accès des lieux à tout inconnu. Parmi les vigiles, Jacques Mabali, âgé de 55 ans et membre de l'église évangélique luthérienne du Cameroun. Il dit avoir répondu à l'appel de sa hiérarchie religieuse.
C'est un acte social et c'est très bien. Ça, c'est pour défendre son pays, c'est pour défendre l'humanité, surtout le peuple camerounais qui n'a pas vécu cette situation pareille depuis un certain temps.
Ibrahim Mokhtar, jeune musulman de Mosoko, explique que ses co-religionnaires et lui protègent les églises.
En tant que fidèle, je fais la prière que Dieu nous protège dans cette histoire-là. Et ça nous inquiète trop. Les chrétiens et les musulmans, ce sont des frères. Parce que je peux être musulman et mon frère est chrétien. Nous faisons beaucoup de prières que Dieu nous garde seulement l'histoire si c'est fini. C'est ça notre souhait.
Les groupes d'autodéfense ont été mis sur pied l'année dernière pour assister le gouvernement camerounais dans la lutte contre Boko Haram, lorsque les insurgés nigériens ont commencé à utiliser des femmes kamikazes. Le Cameroun compte 23,7 millions d'habitants, dont 40% de chrétiens, 20% de musulmans et 40% d'adeptes de religions traditionnelles. Midjiwaya Bakari, gouverneur de l'extrême nord, se félicite de la collaboration entre musulmans et chrétiens de sa région dans la protection du pays.
Nous l'avons vu et nous avons applaudi à deux mains cette mesure qui a consisté pour les chrétiens à sécuriser les lieux de culte quand les musulmans prient et vice-versa. Nous avons vu le dimanche passé où, pendant que les chrétiens étaient dans les églises, c'est les musulmans qui faisaient la ronde et qui montaient la garde. Et nous condamnons avec la dernière rigueur cet acte encore barbare et nous présentons aux familles si durement éprouvées les condoléances du chef de l'État.
Pour les autorités de Yaoundé, Boko Haram se rabat maintenant sur les mosquées parce que sa force de frappe a été nettement diminuée par les raids des troupes camerounaises et nigérianes contre ses bastions au Nigeria.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le point sur la récente attaque djihadiste au Burkina Faso, mais aussi plus largement sur la menace terroriste devenue omniprésente en Afrique. Que doivent faire les pays africains pour enrayer la menace et contrecarrer les tentatives de déstabilisation par les groupes djihadistes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TV.
À Lubumbashi, le message de sensibilisation sur l'organisation générale des élections du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, aux opérateurs politiques et à la société civile du Haut-Katanga fait l'objet de critiques et interprétations. C'est une correspondance signée Narval Mabila.
Après avoir remis de djip au secrétariat provincial du Haut-Katanga, le vice-président national de la CENI, Norbert Basengezi Katintima, a organisé une rencontre dans la salle de la mairie de Lubumbashi où il a abordé tous les contours avec une nécessité majeure de la révision du fichier électoral. Cet échange a suscité des remous et inquiétudes par plus d'un membre des partis politiques présents qui ont réagi à notre micro. Monsieur Tivoidi du CDPS et Georges Mawine de l'UNAFEC Yungwa Kumanza.
On ne pouvait pas s'attendre à autre chose que ce que Basengezi nous a donné hier, c'est-à-dire nous distraire, nous flouer, développer une rhétorique tout à fait anesthésiante pour le peuple pour qu'il puisse accepter la thèse du glissement et lui-même l'a constaté hier avec les cris d'improbation qu'il y a eu dans la salle. électorale, le peuple ne demande qu'une seule chose, les élections ou rien du tout.
Il est venu nous préparer à un glissement. Vous savez, nous sommes au mois de janvier. La période n'a pas encore commencé. Donc, par conséquent, nous ne pouvons pas accepter que le vice-président de la CENI vienne nous sensibiliser pour cette histoire d'élection, qui n'est pas à mesure d'organiser les élections et déterminer la révision du fichier 13 mois avant. C'est-à-dire qu'il veut nous emballer directement l'année prochaine pour la fin du processus de fiabilisation du fichier électoral. Comprenez déjà qu'il est venu provoquer la population katangaise.
Selon Maître Hubertus Soaka de l'Institut des Recherches en Droits Humains, la CENI se penche du côté de la majorité pour favoriser l'aiguisement en ignorant les lois de la République.
Non, apparemment, comme vous avez suivi, c'est que le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante avait dit hier, c'est qu'il faudrait procéder à l'enregistrement ou la révision du fichier électoral. La révision du fichier électoral, il a parlé de l'enregistrement des nouveaux majeurs, des militaires qui sont devenus des civils, il faudrait les enregistrer, il faudrait nettoyer le fichier de tous les morts suivant le rapport de l'OIF, et il nous ramène au point de départ du recensement de la population. Or, cette question a déjà été discutée l'année passée, la population avait dit non, mais on dirait que la Commission électorale nationale indépendante est en train de nous ramener au point de départ. Elle ne sait pas s'assumer politiquement. La Commission n'est pas indépendante, mais elle semble s'appuyer sur un point de vue de l'un des belligérants qui sont à la conquête du pouvoir. Pour la CENI, la recommandation, c'est qu'elle puisse plutôt se plier au texte. Il ne faut pas donner des explications techniques ou bien politiques. Il faudrait regarder quelles sont les obligations des textes.
Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Et toujours en RDC, sorti en Europe depuis 2014, le documentaire « L'homme qui répare les femmes » a finalement été projeté à la halle de la Gombe à Kinshasa. Le film doit être diffusé à Bukavu jeudi, puis dimanche à Lubumbashi. C'est un reportage de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa.
Dès 17h, la salle Brel du Centre Wallonie Bruxelles accueille petit à petit ses invités. Objectif, voir le film dédié au travail du docteur Denis Mukwege. Belinda Kabango est curieuse de voir ce film.
D'abord le nom du réalisateur et puis l'intitulé du film, L'homme qui répare les femmes. Ça ne sort pas de l'ordinaire, hein. C'est un film qui parle du Congo. C'est un film dans lequel les femmes sont mises en exergue, donc j'aimerais bien regarder, voir à quoi ça va ressembler. J'aimerais voir la projection avec les réalisateurs à côté.
D'après ceux qui l'ont regardé, c'est un film interdit aux cardiaques. Est-ce que toi, tu t'es préparé moralement pour regarder ce film?
Disons que dans la vie, on a déjà eu à supporter plus que ça. Donc, ça ne va pas nous offenser outre mesure. C'est une mise en scène des choses qui ont été avérées. Et puis le fait qu'on ait interdit ça avant, c'est ce qui crée le buzz justement.
Des étrangers vivant à Kinshasa sont également intéressés.
Je m'appelle Sophie, française.
Et qu'est-ce qui vous amène à venir regarder ce film?
Ça fait longtemps que je voudrais le voir parce que je travaille en RDC sur des programmes de prise en charge de femmes victimes de violences. Donc on est complètement dans le cœur du sujet de ce qu'on fait à Kinshasa. Donc ça m'intéresse de voir ce film. Puis je connais Thierry Michel, j'ai déjà vu d'autres réalisations de lui. Et je pense que ça doit être très intéressant.
Il y a certaines personnes qui ont regardé ces documentaires, ont dit qu'il est interdit aux cardiaques. Est-ce que vous vous êtes préparé moralement?
Écoutez, comme je travaille dans la violence basée sur le genre, oui, je suis complètement préparée.
Le réalisateur belge Thierry Michel regrette que ce film soit projeté bien trop tard en RDC, mais il s'est dit heureux.
Le Congo est un pays extrêmement étonnant, imprévisible, où les situations changent comme le temps ici. Un jour, le matin, il fait beau, le soir, il y a la tempête ou l'orage. En tout cas, toute décision peut être évoquée et on peut revenir sur une décision si on estime qu'elle est erronée. Donc j'en suis très heureux.
Est-ce que vous regrettez de n'avoir pas présenté ce film plus tôt?
Oui, bien sûr, puisqu'il a été présenté dans, je ne sais pas combien, 25 pays dans le monde, peut-être même plus. Il a déjà eu 10 prix internationaux. Ça va de l'Amérique latine à l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord. Et aussi, 9 pays africains ont déjà vu et débattu du film. Donc je suis un peu triste que ce soit le Congo qui soit un peu la queue du peloton et qui voit ce film après tous les autres pays africains, alors que ce film parle d'abord d'une histoire de Congolais pour les Congolais. Mais je suis très heureux qu'aujourd'hui on puisse faire ce débat, il n'est jamais trop tard.
Ce film sera projeté ce jeudi à Bukavu. Il le sera dimanche et lundi à Lubumbashi. Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Et une fenêtre ici aux États-Unis. Le gouverneur de l'État du Michigan est accusé de négligence concernant la contamination de l'eau courante dans la ville de Flint. La garde nationale a envoyé des renforts pour la distribution de l'eau en bouteille, celle du robinet ne pouvant être utilisée pour le bain, encore moins à la consommation. Les précisions de Michel Joseph.
70 membres de la garde nationale américaine sont arrivés à Flint pour aider à distribuer de l'eau en bouteille, mais aussi des filtres ainsi que des kits d'analyse aux 100 000 habitants de la ville. C'est depuis l'année dernière que ceux-ci se plaignent de l'odeur et de la couleur de l'eau du robinet, mais apparemment rien n'a été fait. Aujourd'hui, des analyses médicales sur des enfants locaux montrent des niveaux élevés de plomb dans l'organisme, ce qui les expose à des risques accrus de dommages permanents au cerveau. Plusieurs voix se sont élevées pour tirer à boulet rouge sur le gouverneur du Michigan, Rich Snyder, accusé de lenteur dans la réponse à cette crise sanitaire. Parmi elles, celle d'Hillary Clinton, candidate à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle américaine de 2016.
Si les enfants d'une banlieue chic de Détroit buvaient de l'eau contaminée et s'y baignaient, il y aurait eu une réaction. J'ai donc envoyé un haut responsable de ma campagne là-bas pour parler au maire de Flint et voir comment je peux aider.
Samedi, le président Barack Obama a déclaré une urgence fédérale à Flint, ce qui a permis d'allouer 5 millions de dollars d'aide aux efforts contre la crise de l'eau. Lors d'une visite sur place dimanche, le pasteur Jesse Jackson a exhorté les habitants de Flint à lutter pour leurs droits.
C'est une zone des désastres, pas seulement une urgence. Peut-être qu'on devrait déployer un dispositif policier autour de Flint, car c'est la scène d'un crime.
Natif de Flint, le cinéaste Michael Moore a aussi mis en cause le gouverneur du Michigan. Il a appelé le président Obama à visiter la ville.
L'infrastructure d'adduction d'eau a été détruite par le gouverneur de cet État.
Le réseau d'adduction d'eau de Flint a été contaminé au plomb début 2014 lorsque les autorités ont décidé, pour des raisons économiques, de s'approvisionner en eau dans une rivière locale plutôt que de la canaliser à partir du lac Huron. Une mesure provisoire en attendant la construction d'une nouvelle canalisation vers le lac. Toutefois, l'eau de la rivière a entraîné la corrosion des tuyaux libérant du plomb. Face à ce danger, la connexion a été rétablie avec le lac Huron. Mais les tuyaux et d'autres infrastructures endommagées continuent de susciter une vive préoccupation. Une enquête a été diligentée pour faire la lumière sur cette situation catastrophique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. 4-0. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
I really can't stay.
Baby, it's cold outside.
I've gotta go away.
Baby, it's cold outside.
This evening has been
hoping that you drop
so
in.
Very nice.
I'll hold your like
my
ice.
Mother will start to worry.
Beautiful, watch your
my hand. Father will be pacing the floor.
Just listen to that fireplace
now
roar.
Now really I'd better scurry.
Sweetheart, watch your hurry.
Well, maybe just a half
why
a drink.
Why don't you
more.
Put some records on while I pour.
The neighbors might think.
But baby, it's bad out there.
Say, what's in this dream?
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington, c'est la fin de cette édition. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.